Lisons quelques passages dans le livre de l'Exode, premièrement deux versets dans le 15e chapitre. Exode, chapitre 15, verset 2. Jah est ma force et mon cantique, il a été mon salut. Il est mon rocher, je lui préparerai une habitation. Verset 17. Tu les introduiras et tu les planteras sur la montagne de ton héritage, le lieu que tu as préparé pour ton habitation, ô Éternel, le sanctuaire, ô Seigneur, que tes mains ont établi. Dans le chapitre 25 du même livre, verset 8e, et ils feront pour moi un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Selon tout ce que je te montre, le modèle du tabernacle et le modèle de tous ses ustensiles, ainsi vous ferez. Et au verset 31e de ce même chapitre 25, et tu feras un chandelier d'or pur. Le chandelier sera fait d'or battu. Son pied et sa tige et ses calices, ses pommes et ses fleurs seront tirées de lui. Et 6 branches sortiront de ses côtés. 3 branches du chandelier d'un côté et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme de fleurs d'amandier, une pomme, une fleur, et sur une autre branche 3 calices en forme de fleurs d'amandier, une pomme, une fleur. Ainsi pour les 6 branches sortant du chandelier. Il y aura au chandelier 4 calices en forme de fleurs d'amandier, ses pommes et ses fleurs. Et une pomme sous 2 branches sortant de lui, et une pomme sous 2 branches sortant de lui, et une pomme sous 2 branches sortant de lui. Pour les 6 branches sortant du chandelier, leurs pommes et leurs branches seront tirées de lui, le tout battu d'une pièce d'or pur. Et tu feras ces 7 lampes, et on allumera ces lampes, afin qu'elles éclairent vis-à-vis de lui. Et ses mouchettes et ses vases à cendre seront d'or pur. On le fera avec tous ses ustensiles d'un talent d'or pur. Regarde et fais selon le modèle qui t'en est montré sur la montagne. Nous savons que le propos de Dieu était d'habiter avec l'homme. Dieu habite dans les cieux, Dieu habite la lumière inaccessible. Dieu a sa demeure dans l'éternité, mais selon le conseil de sa grâce, il veut habiter avec sa créature, et par ailleurs, il veut que sa créature habite les cieux. Nous ne trouvons pas la réalisation de cette pensée divine dans la Genèse, où les hommes marchent individuellement avec Dieu. Tel un Noé, un Abraham, un Enoch et tant d'autres. Mais pour que cette demeure trouve sa réalisation, il faut que la question du péché soit réglée et ses conséquences, ne serait-ce que par les types et les figures que nous donnent les enseignements des livres de l'Ancien Testament. C'est ainsi qu'après que le peuple choisit par la grâce souveraine de Dieu, Israël a été mis à l'abri du Pharaon, a été délivré du pays de la servitude, ayant été mis à l'abri également du jugement en vertu du sang de l'agneau pascal, après que ce peuple eut traversé la mer Rouge, que l'Éternel lui communique sa pensée et ses instructions en rapport avec cette demeure, qui, dans le chant du cantique, le premier que nous trouvions dans l'Écriture, en Exode 15, ce cantique de la délivrance d'un peuple délivré, introduit dans une terre nouvelle, qui pour un peuple racheté doit être un désert, c'est ce monde, unit sa voix dans la reconnaissance et les actions de grâce, exprimant cette pensée réciproque d'une demeure préparée. L'Éternel lui prépare un sanctuaire, le peuple lui prépare une habitation. Mais nous savons bien que rien n'est de l'initiative de l'homme dans la réalisation de cette habitation, toutes les instructions, toutes les données, tous les enseignements viennent de Dieu lui-même. Et le peuple est solennellement mis en garde de faire, comme nous l'avons lu, tout selon ce que l'Éternel avait commandé à Moïse sur la montagne. Ce qui souligne cette réalité, à savoir que la réalisation de l'habitation de Dieu sur cette terre est conditionnée à l'obéissance. Et si la gloire de l'Éternel, sous la forme de la nuée, est entrée dans cette première réalisation de l'habitation de Dieu avec l'homme, qu'est le tabernacle, a eu lieu au 40e chapitre du livre de l'Exode, c'est parce que tout a été fait comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, déclaration que nous trouvons sauf erreur 18 fois dans les chapitres 39 et 4. Présence divine conditionnée à une obéissance entière aux instructions de Dieu. C'était une tente itinérante dans le désert qui sera suivie d'une demeure somptueuse, édifié par le roi de gloire, préparé par le roi rejeté, le temple de Salomon. Il y a diverses réalisations de cette maison, mais c'est toujours la même maison. Nous n'avons jamais, dans l'histoire des peuples et des économies, deux maisons contemporaines, deux maisons de Dieu sur la terre. Le tabernacle est donc la première. Notre intention n'est pas de nous occuper de ce sujet si précieux, si riche en instructions qu'est le tabernacle, mais fixer notre attention sur un seul de ses éléments, à savoir le chandelier. Nous savons tous également que cette maison était composée de trois parties, la cour ou le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans la cour, à l'intérieur des tentures, celui qui franchissait la porte, figure de Christ, qui a pu dire lui-même « Moi, je suis la porte », se trouvait placé face à l'autel d'airain sur lequel était consumée la victime. Mais le sacrificateur qui œuvrait dans le sanctuaire, le lieu saint, devait passer à la cuve, figure du lavage d'ordre pratique et répétitif qui n'a rien de commun avec le lavage de la régénération qui ne s'opère qu'une seule fois. Mais pour être purifié des souillures contractées dans la vie quotidienne, le sacrificateur devait s'y laver les mains et les pieds avant d'œuvrer dans le sanctuaire. Et ces sacrificateurs, famille privilégiée, celle d'Aaron, opéraient donc dans le lieu saint, mais devant un voile fermé, car comme nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, le chemin du lieu saint n'était pas encore ouvert. Le voile n'a été déchiré que lors de la mort du Seigneur sur la croix. Dans ce lieu saint, trois éléments se trouvaient en face, en entrant devant un voile fermé, l'autel d'or, qui nous parle de l'intercession et de l'adoration, à droite la table des pains et à gauche le chandelier. Sur la table des pains se trouvaient les 12 pains, figure de l'ensemble du peuple de Dieu. À gauche, donc, le chandelier. Et dans ce sanctuaire, il n'y avait pas d'autre source de lumière que celle du chandelier qui donnait toute la clairvoyance, toute la capacité de pouvoir travailler sous une lumière qui était celle que produit en figure le Saint-Esprit, ce que l'huile représente. Il n'y avait pas davantage de siège, c'est un service qui n'est jamais achevé. Il n'y avait pas de sol autre que le désert, que le sable du désert, nous sommes encore ici-bas. Le chandelier est un des éléments du sanctuaire qui comporte de nombreuses instructions, des enseignements de la plus haute valeur. C'est donc la source de lumière. Et la description qui nous est donnée plus d'une fois, nous la retrouvons dans la seconde narration des éléments du sanctuaire, dans ce même livre. Le chandelier était donc d'or pur. C'est un des rares éléments du chandelier duquel nous ne connaissions pas les dimensions. Il en était de même de la cuve. Il n'y a pas de dimension donnée, contrairement aux autels, contrairement à la table ou à l'arche. Ce chandelier était d'or battu, ce qui contraste avec le veau d'or qui était d'or fondu. Si l'or du veau d'or était le résultat du travail de l'homme, le chandelier est en fait d'or battu d'une seule pièce et une expression de ce qui résulte des souffrances de Christ. Il y a de nombreux éléments dans le tabernacle qui nous parlent de Christ et des siens. C'est le cas du chandelier comme de beaucoup d'autres. En revanche, quelques éléments nous parlent de Christ seul. C'est le cas du voile, c'est le cas de l'arche, c'est le cas du propitiatoire. Mais dans le chandelier, nous avons Christ et les siens, comme aussi dans les tapis, comme aussi sur la table. Il nous est dit donc que ce chandelier sera fait d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs sortiront ou seront tirés de lui. Un fondement, un pied, une tige centrale, et nous le comprenons bien, nous parle de Christ. La source de la lumière, mais celui duquel sont tirées de ça et de là des branches au nombre de 6, plus la lampe qui se trouve au sommet de la tige centrale, c'est-à-dire 7 lampes qui sont bien l'expression de la plénitude de la lumière divine que produit le Saint-Esprit dans le sanctuaire. Seule puissance appelée et autorisée à agir dans la maison de Dieu où tout se fait par l'Esprit. Il n'y a que 2 puissances qui peuvent agir, la chair et l'Esprit, mais nous savons bien que la chair n'a ni lieu ni place, elle n'a nullement autorisée à agir dans la maison de Dieu. Et dans le croyant, elle est appelée à être à la place où la croix de Christ l'a placée, c'est-à-dire dans la mort. Une tige centrale, elle est de ça et de là ses lampes. Cet ensemble nous fait penser à celui dont il nous est parlé dans le dernier livre de l'Écriture, dans cette épître adressée à Éphèse, qui évoque celui qui marche au milieu des 7 lampes d'or. L'or battu, la justice divine, celui qui a connu les coups par les souffrances et qui a connu la mort, œuvre de laquelle il est résulté ceux qui sont tirés de lui. Il est beau de voir des différents exemples dans l'Écriture où nous voyons les siens tirés de Christ. Tel était le cas d'Ève, cette première femme qui est la première figure de l'Assemblée, tirée du côté d'Adam, résultat du travail de Dieu pendant le sommeil du premier homme. Non prise à la tête pour être une rivale, non prise au niveau de ses pieds pour être son esclave, mais prise au niveau des affections. Première femme, celle qui est haut de ses os et chair de sa chair, tirée du côté du premier homme. Ici, nous avons ces tiges qui sont tirées de ça et de là, mais qui font corps avec cette tige centrale, un ensemble qui ne connaît pas de rupture, Christ et les siens. Marqué par le Saint-Esprit, car nous savons bien que c'est le résultat de la descente du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte qui a donné naissance au corps de Christ à l'Assemblée. Ce Saint-Esprit qui produit cette lumière, l'huile, qui était également de l'huile broyée, qui nous rappelle les souffrances. Les pommes et les fleurs d'amandier, ces pommes, c'est comme les grenades qui nous parlent du fruit de l'esprit. L'amandier, ce premier arbre qui fleurit après l'hiver, figure de la vie en résurrection. Tout cela est rassemblé dans un seul élément qu'est le chandelier, le tout est d'une seule pièce, Christ, les siens et son esprit. Et c'est à cette lumière que vont œuvrer les sacrificateurs, la famille sacerdotale, pour accomplir le service dans le sanctuaire. Mais il est intéressant et riche en instructions de constater les diverses manières selon lesquelles le chandelier brille. Et nous pouvons lire quelques passages pour souligner les façons diversifiées selon lesquelles le chandelier brille dans le sanctuaire. Ce que nous avons lu dans les derniers versets de ce 25e chapitre, c'est qu'il brille vis-à-vis de lui. Il brillait, bien sûr, nous le verrons plus loin, vis-à-vis dans le sens qu'il éclairait la table qui se trouvait en face. Mais l'expression brillant vis-à-vis de lui, comme s'éclairant lui-même, semble bien traduire ce que produit le Saint-Esprit dont le Seigneur pouvait parler alors qu'il était encore ici-bas, ce consolateur qu'il allait envoyer et duquel il pouvait dire « Celui-ci rendra témoignage de moi ». Le chandelier qui s'illumine et s'éclaire lui-même à son égard. Le Saint-Esprit qui se plaît à nous entretenir de Christ et de ses gloires, de Christ et de son œuvre. Tel est en effet le propos de cette personne divine qui, à la suite de la rédemption, de la résurrection et de l'élévation du Seigneur, est descendu pour être l'hôte divin qui habite dans le corps physique des croyants, nous rendant nos corps par cela le temple du Saint-Esprit et qui habite dans la maison de Dieu, et qui nous entretient tout au long du voyage de Christ et de ses pensées. Tel est le propos du Saint-Esprit, il rendra témoignage de moi, comme nous l'avons en figure dans ce chemin qu'accomplissait le serviteur d'Abraham Eliezer qui accompagnait Rebecca jusqu'à la rencontre de son époux. On peut bien penser quels étaient les entretiens de qui parlait ce serviteur accompagnant cette femme jusqu'à la rencontre de celui qui vient vers elle et qui se trouvait au puits de la Caïroï. Le chandelier brille vis-à-vis de lui. Il éclaire la propre gloire de Christ et la fait briller devant le regard de la foi et devant les regards de nos cœurs. Mais nous avons une deuxième expression au chapitre 26, au verset 35e. « Et tu placeras la table en dehors du voile et le chandelier vis-à-vis de la table sur le côté du tabernacle » qui est vers le sud, et tu mettras la table sur le côté nord. Le chandelier brillant vis-à-vis de la table, éclairant cette table et ce qu'elle porte, à savoir les 12 pains. C'est bien par le baptême du Saint-Esprit que les croyants ont été constitués en un seul corps, cet organisme divin, et non pas une organisation, dont nous avons la description si riche en enseignement dans le 12e chapitre de la première épître aux Corinthiens. Le chandelier éclaire cette table sur laquelle se trouvent ces 12 pains dans un ordre parfait de rangées de 6, sur une table de bois de sittim recouverte d'or. Cette table qui, avec ses pains, nous parle de manière très diverse et pleine d'enseignements précieux pour nos cœurs. Christ lui-même, Christ portant les siens devant Dieu. Les pains qui évoquent cet ensemble indivisible d'un peuple racheté, mais qui nous parle aussi des mets desquels des aliments, cette nourriture de laquelle les sacrificateurs se nourrissent dans le sanctuaire. Le chandelier rend témoignage de ces choses, brillant vis-à-vis de la table, ou en rapport avec elle. Cette table sur laquelle les 12 pains, nous le disons, qui représentent l'unité administrative du peuple terrestre de Dieu, mais qui a conservé sa réalité aux yeux de Dieu en dépit de ce qu'a été l'homme. Nous savons bien que le peuple a été divisé. Nous savons bien que il est à l'heure actuelle invisible sur la face de cette terre, mais en dépit de ce que le peuple réalise ou manifeste, des grâces qui sont son partage, ce que Dieu a établi demeure. Et combien il est beau de voir qu'un Élie sur le mont Carmel, malgré la séparation du peuple, a pu édifier un autel de 12 pierres. Aussi bien que l'apôtre a pu adresser son épître aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Tel est notre heureux partage de pouvoir, et d'une manière si particulière et chaque fois émouvante pour nos cœurs, rappeler l'unité du corps de Christ chaque premier jour de la semaine, en étant placé autour de la table et devant le mémorial de l'œuvre de Christ, ce seul pain, comme il y a un seul corps. La réalité de cette unité glorieuse aux yeux de Dieu, résultat de l'œuvre de Christ, n'est pas altérée par le fractionnement de la chrétienté des croyants. Et nous pouvons bien chanter toujours avec reconnaissance que l'unité de ton Église est belle, qu'elle plaît à tes yeux. Car elle repose sur l'œuvre de Christ. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Et cette unité est inaltérable. Il n'y a pas de division dans le corps. Le chandelier se plaît à mettre en évidence, figure de l'action du Saint-Esprit dans la maison de Dieu, qui évoque cette réalité glorieuse de l'unité d'un peuple et de sa position en Christ. Ses pains étaient sur la table, et il nous est même précisé dans la description de celle-ci qu'elle comportait un rebord, comme pour nous dire que la sécurité de ses pains, c'est-à-dire du peuple en Christ devant Dieu, a une position absolument sûre. Aucun d'eux ne saurait déchoir de sa position dans les fêtes du désert. Quel réconfort, quel encouragement. Nous savons qu'il n'y a rien de plus sûr que la position en Christ. Mais en revanche, il n'y a rien de plus fragile que la communion. Deux choses si distinctes. Il brillait donc vis-à-vis de la table. La mise en évidence à la gloire de celui qui en était l'auteur, de cette unité dans l'atmosphère du sanctuaire, à la lumière du Saint-Esprit, sous le regard des sacrificateurs, l'unité de ce peuple sur une table. Combien plus précieux est notre part de pouvoir proclamer à la table du Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit qui nous accorde de saisir ces réalités, l'unité de ce peuple dont le Seigneur a constitué ce corps duquel il est lui-même la tête glorifiée dans le ciel. Il y a un seul pain, un seul corps. Ces 12 pains étaient un seul pain aux yeux de Dieu. Mais il y a d'autres manières encore selon lesquelles le chandelier brillait. Dans le livre des Nombres, au chapitre 8e, nous lisons les premiers versets du chapitre. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle à Aaron et dis-lui, quand tu allumeras les lampes, les 7 lampes éclaireront sur le devant vis-à-vis du chandelier. » Et Aaron fit ainsi, il alluma les lampes pour éclairer sur le devant vis-à-vis du chandelier, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Toujours les ordres divins. Et le chandelier était fait ainsi. Il était d'or battu depuis son pied jusqu'à ses fleurs. Il était d'or battu selon la forme que l'Éternel avait montrée à Moïse, ainsi qu'il avait fait le chandelier. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Prends les Lévites du milieu des fils d'Israël et purifie-les, et tu leur feras ainsi pour les purifier. » Tu feras aspersion sur eux de l'eau de purification du péché. et elles feront passer le rasoir sur toute leur chair, et ils laveront leurs vêtements et se purifieront. Et ils prendront un jeune taureau, et ils son offrande le gâteau de fleurs de farine pétrie à l'huile. Et tu prendras un second jeune taureau pour sacrifice pour le péché. Et tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation, et tu réuniras toute l'assemblée des fils d'Israël, et tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel, et les fils d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Et Aaron offrira les Lévites en offrant tournoyer devant l'Éternel de la part des fils d'Israël. Et ils seront employés au service de l'Éternel, et les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux. Et tu offriras l'un en sacrifice pour le péché et l'autre en holocauste à l'Éternel, afin de faire propitiation pour les Lévites. Et tu feras tenir les Lévites devant Aaron et devant ses fils, et tu les offriras en offrande tournoyée à l'Éternel. Et tu sépareras les Lévites du milieu des fils d'Israël, et les Lévites seront à moi. Après cela, les Lévites viendront pour faire le service de la tente d'assignation, et tu les purifieras, et tu les offriras en offrande tournoyée, car ils me sont entièrement donnés du milieu des fils d'Israël, je les ai pris pour moi. Disons a priori la différence qu'il y a entre les sacrificateurs et les Lévites, bien que les sacrificateurs soient des Lévites. Lorsque nous évoquons les sacrificateurs, nous pensons bien sûr à l'activité d'adorateur. Alors que lorsque nous lisons ce qui est confié aux Lévites comme tel, il s'agit de l'activité des serviteurs. Les sacrificateurs œuvraient pendant les haltes, alors que les Lévites travaillaient entre les haltes, pendant les traites dans le désert. Et ceci est bien significatif comme adorateurs. Les adorateurs remplissent leur fonction lorsque l'assemblée s'arrête pour sacrifier la louange. Comme serviteurs, il s'agit de l'acquis de charge et de privilège que la grâce de Dieu dispense à chacun des siens, ayant placé les siens comme membres dans le corps comme il l'a voulu en vue de l'utilité, et c'est un service constant. Nous disons également en passant que les Lévites ont reçu ce service de la tente d'assignation de la maison de l'Éternel en récompense de leur prise de position sans équivoque à la suite de l'affaire du veau d'or. Nous savons pourquoi il leur a été donné ce service. Et combien il est intéressant de lire les paroles de Jacob en Genèse 49 concernant la prophétie des Lévites, de son fils Lévi, et la mettre en contraste avec les bénédictions prononcées par Moïse à la fin du Deutéronome concernant cette même tribu. Que s'est-il passé entre deux? Les Lévites ont pris position dans l'affaire du veau d'or et n'ont pas épargné la chair et les sentiments naturels, mais ont eu devant eux la gloire de Dieu, ses droits et la séparation du mal, tout le service si privilégié qui leur a été octroyé. Ce qui nous frappe dans ce passage, c'est la mention du chandelier unique. Il n'y a pas d'autre élément mentionné dans le cours de ces chapitres, et nous avons le chandelier mentionné tout seul après l'offrande des princes et avant le service des Lévites. Nous pouvons nous poser la question, pourquoi donc y a-t-il la mention du chandelier? Il nous semble que l'Esprit de Dieu place devant nous cette nécessité de la lumière divine, la lumière du sanctuaire, la lumière du Saint-Esprit, aussi bien pour l'exercice des dons, ce qui est offert par les princes, que pour les services des Lévites. Nous le répétons, dans la maison de Dieu, tout se fait par l'Esprit. L'Esprit Saint a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le service auquel je les ai appelés. C'est le Saint-Esprit qui, de la part du Seigneur, appelle au service. l'homme n'a rien à voir dans l'appel au service, pas davantage dans la formation du serviteur, moins encore dans l'envoi du serviteur dans le champ d'activité que la grâce de Dieu place devant lui. Seul le Seigneur, par son esprit travaillant dans les cœurs, appelle qui veut pour faire ce qu'il veut. L'appel au service n'est pas celui de l'Assemblée. L'Assemblée a une autre mission. Elle est appelée à être dans ce monde la colonne et le soutien de la vérité. C'est elle qui lie et délie au nom du Seigneur, étant investie de l'autorité du Seigneur lui-même pour agir en son nom, notamment lorsqu'il s'agit de la réception à la table du Seigneur ou d'une rupture de communion. Mais lorsqu'il s'agit d'un appel d'un serviteur pour accomplir un service, ce n'est pas l'Assemblée. C'est le Seigneur seul, le Saint-Esprit qui appelle. Et nous voyons dans ce chapitre 13 du livre des Actes que dans cette assemblée d'Antioche, où on peut bien le penser, les croyants qui constituaient ce rassemblement auraient souhaité conserver ces deux serviteurs utiles parmi eux, ils s'inclinent devant l'appel au service par le Saint-Esprit. Mettez-moi par Paul et Barnabas. Le Seigneur donc, par son esprit, appelle. Le Seigneur seul forme. Et nous connaissons bien la seule école de théologie que la parole nous présente en Jean 1, où les disciples ont vu le Seigneur marcher, ils ont entendu sa voix, ils l'ont suivi et ils ont été conduits là où il demeurait. C'est la formation du serviteur. Quel est l'homme? Quels sont les hommes? Quelle est l'école qui pourrait former un serviteur pour le service que seul le Seigneur a en vue pour lui? Ce sont toutes des écoles privées. Et la formation d'un Pierre n'était pas celle d'un Paul. Le service d'un Jacques n'était pas le service de Jean. L'appel et la formation sont individuels. Le Seigneur donc appelle, le Seigneur forme, et lorsqu'il le juge bon, il le juge bon, le Seigneur envoie. Paul et Barnabas ont été appelés, ils ont été formés, et dans ce même chapitre 13 des Actes, ils sont envoyés. Remarquons que ces deux serviteurs bénéficient de la main d'association de l'Assemblée, de la communion entière du rassemblement duquel ils partent, combien cela est nécessaire. Et c'est un exercice vécu de part et d'autre, dans lequel la chair n'est pas nourrie. C'est avec jeûne que ces circonstances sont vécues, avec prière, c'est-à-dire dans la dépendance et dans la communion. Trois facteurs combien utiles, combien indispensables pour l'exercice d'un service, quel qu'il soit. La chair n'est pas nourrie, la communion est réalisée, la dépendance aussi. Nous voyons dans ce même chapitre aussi que l'Assemblée ne leur dit pas où ils doivent aller. Ils les laissèrent aller. Le Seigneur seul peut orienter leurs pas où il jugera bon de les envoyer pour accomplir le service pour lequel il les a appelés et formés. C'est bien ce qui nous fait comprendre la raison de la mention du chandelier seul qui précède le service des Lévites. La lumière de l'esprit en vue d'un service à l'homme. Et nous avons trois choses en rapport avec les Lévites. Remarquons qu'il ne s'agit pas d'un crédule, il s'agit du peuple de Dieu. Nous n'avons pas ici la figure de la conversion, nous avons la préparation de la part de l'Éternel en vue d'un service, de ceux qui appartiennent à son peuple. Première chose, tu feras aspersion sur eux de l'eau de la purification, un lavage. Un lavage d'ordre pratique, opéré par la parole, qui emprunte du sacrifice de Christ comme l'était l'eau dans laquelle se trouvaient les sangs de la jeune Israël. Ce lavage qui nous parle de l'efficacité de la parole appliquée par le Saint-Esprit au cœur et à la conscience pour le dépouillement de la chair, pour la formation d'un serviteur, pour la nourriture permanente que doit être l'écriture pour chacun de nous, l'action de cette parole, toujours indispensable. C'est par elle que le Seigneur opère le lavage d'eau de son assemblée. Ils étaient donc mis au bénéfice de cette aspersion de l'eau de la purification qui était opérée par Moïse. Et il est ajouté secondement, ils feront passer le rasoir sur toute leur chair et laveront leurs vêtements. Ce n'est plus Moïse qui le fait. Remarquons la différence. Tu feras aspersion sur eux, et ensuite ils feront passer le rasoir sur toute leur chair et laveront leurs vêtements. La seconde et la troisième chose est laissée à la responsabilité des Lévites. Moïse ne peut pas le faire pour eux. Le rasoir sur toute la chair, couper à la base tout ce que la chair produit. Nous le savons bien, elle a trouvé sa fin à la croix de Christ. Nous sommes mort avec Christ et ressuscité avec lui. Et nous sommes appelés à tenir cette chair dans la mort où Christ l'a placée. Mais nous connaissons, pas suffisamment, mais ce que sont pourtant nos cœurs. Et combien facilement elle manifeste encore ses caractères par notre manque de vigilance. Et remarquons que quant à la chair, elle a une vitalité insoupçonnée, qui dépasse de loin celle de nos corps. Il nous est bien dit que nos corps physiques connaissent la décrépitude, le vieillissement, l'affaiblissement par les ans, mais il ne nous est jamais dit que la chair faiblit. Elle a une vitalité telle qu'il n'y a qu'un seul remède qui lui convient, c'est la mort. Et la chair qui se manifeste chez un croyant, à quelque âge que ce soit, elle est exactement la même que chez un incrédule. Elle n'a subi aucune amélioration par la nouvelle naissance. Elle n'est pas née de nouveau. Elle n'a subi aucune amélioration par la conversion. La chair demeure la chair. Romains 8 est là pour l'attester. La pensée de la chair, c'est la mort. Il n'y a pas d'amélioration de la chair. Et l'appel d'un croyant à la vie divine n'est pas l'amélioration de la nature adamique, c'est la création d'un nouvel homme. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Ils feront passer, c'est leur responsabilité. Et nous connaissons combien répétitive va être cette action du rasoir sur notre chair. Nous avons tant de peine à l'opérer. Pour empêcher la manifestation visible par ce rasoir qui passe tous les jours et empêcher le produit de la chair. Et la troisième chose, les vêtements lavés, c'est encore à leur responsabilité le témoignage face à ce monde soumis à la purification de la parole de Dieu. Trois choses étaient donc nécessaires par lesquels devaient passer ces Lévites avant d'entrer dans le service. Mais il y en avait encore d'autres. Il nous est dit que des sacrifices sont offerts, ce qui démontre qu'ils doivent être pénétrés de la réalité, de l'efficacité permanente de Christ et de son temps, son œuvre. Aussi bien dans le sacrifice pour le péché que l'Holocauste, celui qui, par l'Esprit éternel, s'est offert à Dieu. Comme un agneau sans défaut et sans tache, sacrifice duquel s'est exhalé un parfum de bonne odeur. Et il nous a dit que ces Lévites devront poser d'une part leurs mains sur les sacrifices, sur la tête des victimes offertes, et que d'autre part, les fils d'Israël posent leurs mains sur les Lévites. Il y a une double identification. D'une part, l'identification du serviteur à Christ lui-même dans son œuvre. ce qui met l'homme à sa place. Et d'autre part, la main d'association de tout le peuple, son identification dans le service par l'imposition des mains, comme nous l'avons du reste en acte 13. Ils poseront leurs mains sur les Lévites. Et il peut nous être dit, tu les mettras à part, tu les sépareras au verset 14, les Lévites sont à moi, ils appartiennent au Seigneur lui-même. Le Lévite, le serviteur, et n'oublions pas qu'il ne s'agit pas seulement du service public ou d'un ministère public, mais la diversité de services accomplis par le même esprit, ce dont nous parle en Corinthiens 12, un service peut être caché, un service qui n'est pas nécessairement spectaculaire ou visible ou au public, mais accomplir pour le Seigneur ce qu'il nous demande, là où il nous demande, et dans la mesure selon laquelle, dans sa sagesse, il le départit à chacun. Et après cela, soulignons cette déclaration du verset 15, « Après cela, ils entreront en service. Après cela, ils me seront entièrement donnés. Du milieu des fils d'Israël, je les ai pris pour moi. » Le service ayant Christ pour objet. Le service n'ayant pas d'autre mobile que le Seigneur lui-même. Mise en garde en cela également, quant au fait que le serviteur doit être vigilant pour ne pas placer son service devant le Seigneur. C'est ce que fit Marthe. Marie, qui a choisi la bonne part qui ne saurait lui être ôtée, a placé le Seigneur en premier. Marthe a placé le service en premier. Ils me seront entièrement donnés. Et tout cela à la lumière du chemin. Après cela, pourquoi des services interrompus? Pourquoi des services infructueux? Des services parfois arrêtés? Y a-t-il eu, avant cela, les phases desquelles nous venons d'être entretenus par ces quelques versets? Y a-t-il eu l'eau de la purification? Y a-t-il eu le rasoir sur toute la chair? Y a-t-il eu le lavage des vêtements? Tout cela qui confère par ailleurs une autorité morale aux serviteurs, y a-t-il eu l'identification et la main d'association de l'Assemblée? Après cela, ils pourront accomplir le service pour l'Éternel et pour la maison de l'Éternel. Remarquons, puisque nous avons cité, c'est en cela une parenthèse, mais qui est digne de notre intérêt, que si le Seigneur, par son esprit, appelle et forme pour le service, l'Assemblée est investi de son autorité pour lier et délier, c'est Matthieu 18. En revanche, en acte 6, lorsqu'il s'agit des charges qui, elles, sont locales, c'est du ressort des frères. Et si ces trois sphères de responsabilité sont bien délimitées et saisies, il ne peut y en avoir que de la bénédiction et l'ordre dans l'Assemblée. Nous connaissons bien cette scène d'acte 6 où, pour servir aux tables, nous entendons ces paroles « Jetez les yeux, frères, sur sept hommes qui sont pleins de l'esprit et ont un bon témoignage pour accomplir un tel service. » Il s'agit de charges et non pas d'un ministère. Mais nous nous sommes également frappés en constatant, lorsqu'il s'agit des charges, que les qualités, dirons-nous, spirituelles sont requises. Ils doivent avoir un bon témoignage et être remplis de l'Esprit Saint pour accomplir des charges. Et la main d'association est également requise. L'imposition des mains est requise. Mais il n'est pas dit, il les laisse aller. Chacun peut le lire, ayant prier, imposer les mains, ils ont accompli leur service. Il n'est pas dit les laisser aller. Pourquoi cela? Parce que si le ministère en Matthieu 13 ne connaît pas de limite de l'assemblée locale, les charges sont locales. Et il reste dans l'assemblée locale, les charges s'accomplissant dans ce cercle circonscrit. D'où l'exercice que doit connaître un serviteur qui peut être appelé d'une part à remplir, à accomplir un ministère, et d'autre part à remplir des charges dans l'assemblée locale, doit bien faire la distinction des deux choses. Nous avons une autre portion sur laquelle nous pouvons nous arrêter quelques minutes, dans le Lévitique au chapitre 24, en rapport avec l'une de ces manières selon lesquelles le chandelier brille. Lévitique 24. L'Éternel parle à Moïse disant, « Commande aux fils d'Israël qu'ils t'apportent de l'huile d'olive pure, broyée, pour le luminaire, afin de faire brûler la lampe continuellement. Aaron l'arrangera devant l'Éternel continuellement du soir au matin. En dehors du voile du témoignage dans la tente d'assignation, c'est un statut perpétuel en vos générations. Il arrangera les lampes sur le chandelier pur devant l'Éternel continuellement. Et tu prendras de la fleur de farine et tu en cuiras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2/10 et tu les placeras en 2 rangées, 6 par rangée sur la table pure devant l'Éternel. Et tu mettras de l'encens pur sur chaque rangée et ce sera un pain de mémorial, un sacrifice par feu à l'Éternel. Chaque jour du sabbat, on les arrangera devant l'Éternel continuellement de la part des fils d'Israël. C'est une alliance perpétuelle. Et cela appartiendra à Aaron et à ses fils, et ils le mangeront dans un lieu saint, car ce lui sera une chose très sainte d'entre les sacrifices de l'Éternel faits par feu. C'est un statut perpétuel. » Là encore, nous pouvons être surpris de voir la mention à l'ouverture de ce chapitre 24 et dans le contexte de ces chapitres, la mention du chandelier suivie de la mention de la table et des pains qui sont posés sur elle. Et nous poser la question semblable, pourquoi donc l'évocation de ces deux éléments du sanctuaire qui nous semblent apparemment ne pas avoir de liaison avec ce qui suit. Et pourtant, la liaison est évidente. Si nous lisons les passages suivants depuis le verset 10, nous serons placés devant une scène de souillure, voire une scène d'apostasie, où le mal entre de la manière la plus ouverte. Face à un tel état qui évoque bien ce que la chrétienté professante s'envie, manifeste dès maintenant et d'une manière si apparente et toujours croissante, face à cette apostasie qui va grandissant et qui va bientôt être condamnée par le Seigneur par un jugement sans appel, ce qui sera le sort de la Babylone dont nous avons la condamnation dans le 18e chapitre de l'Apocalypse, face à un tel état, dont les signes précurseurs sont si évidents de nos jours, quelles sont donc les ressources? Ce sont bien celles que préfigure, en type, aussi bien le chandelier que la table. Le Saint-Esprit et la parole, sa nourriture. C'est bien ce qui nous gardera, nous préservera, nous séparera, car c'est un Esprit Saint qui sépare du mal. C'est une sainte parole que nous avons que l'Écriture, et il peut nous être dit, au terme de ces quelques versets, ce que nous lisons du reste si fréquemment dans les descriptions du tabernacle, c'est une chose très sainte. Tout ce qui est de Dieu est une chose très sainte, et nous avons à en être aussi bien convaincus que pénétrés. Dans un monde qui gît dans la souillure, qui affiche de la manière la plus ouverte le péché que ce monde ne connaît plus comme tel, car plus rien n'est appelé mal de nos jours, comme racheté du Seigneur, n'étant pas de ce monde, ayant été sanctifié, c'est-à-dire mis à part pour Christ, combien nous avons à être pénétrés de cette réalité lorsqu'il s'agit de tout ce qui se rattache à sa personne et à sa maison, et c'est une chose très sainte. La sainteté sied à la maison de Dieu. Le temple de Dieu est saint et tel vous êtes, dit l'apôtre. Le service des kéatites en nombre 4 est résumé par ces paroles. C'est ici le service des kéatites, 2 points. C'est une chose très sainte. Que cette réalité nous pénètre toujours davantage. Cette sainteté dans ce qui touche au sanctuaire, ce que rappelait en quelque sorte ce seuil des saints basses d'airain qui était au pied des cinq piliers soutenant le voile d'entrée. Un dernier rappel du jugement quant à soi-même. Mais face à cette apostasie qui nous est décrite dans les versets 10 et suivants, les rachetés du Seigneur ont des ressources précieuses. Elles sont nombreuses, mais celles que nous avons ici au nombre de 2 sont du plus haut prix. Il y a bien sûr la présence divine dans le sanctuaire. Il y a la parole, la nourriture, il y a l'esprit. Que pouvait dire Agjai lorsqu'il s'adressait à un peuple en un temps de ruines où ce peuple avait abandonné la reconstruction de la maison de l'Éternel? Pour réchauffer leur cœur, pour produire en eux quelque sel pour la maison de l'Éternel qu'ils avaient abandonnée, que leur dit-il? Je suis avec vous, ma parole et mon esprit demeurent avec vous, ne craignez. Telles étaient en effet les ressources nécessaires, telles sont encore aujourd'hui les mêmes ressources qui nous sont indispensables et elles demeurent à notre disposition. Cette corde triple de la plus haute valeur, la présence divine, la parole et le Saint-Esprit. Pour ceux qui s'approchaient du sanctuaire, de la présence de Dieu dans le lieu très saint, nous laissons de côté la question du voile qui en faisait séparation, ils avaient ces 2 ressources. Face à un état de souillure extérieure, la lumière du chandelier, que produit cette huile broyée, ce Saint-Esprit qui nous entretient de Christ et de ses souffrances, et les pains que la famille sacerdotale mange ensemble, se nourrissant de Christ et des résultats de son œuvre, dans l'atmosphère du sanctuaire et en communion les uns avec les autres. Quelle belle figure nous avons, figure d'un oasis en quelque sorte, que doit être le témoignage du Seigneur dans le sanctuaire, dans les jours d'aujourd'hui, dans un monde qui n'est qu'un champ de ruines, car telle est la chrétienté professante actuellement. Il y a encore la colonne, par la grâce de Dieu, qui se maintiendra toujours un témoignage. Il y a ce sanctuaire où l'on expérimente la réalité et les bienfaits des rayons qui nous conduisent et nous illuminent. Ceux du Saint-Esprit, la lumière du chandelier et la nourriture, que le Seigneur nous accorde d'apprécier ce pain de sa table, les mets de sa maison. Qu'à l'instar de la reine de Sheba, nous apprécions les mets de la table. Mais combien il est encourageant, réconfortant et précieux tout à la fois de lire ces 2 ressources dans un tel contexte. Et que le Seigneur nous accorde de les apprécier, de les cultiver, de nous nourrir de sa parole en vue d'une croissance spirituelle pour sa gloire et notre bien, et en vue de l'affermissement de nos convictions, de notre attachement et de son témoignage sur cette terre. Mais il y a une autre mention dans ces mêmes versets qui retient également notre attention et que nous lisons dans plusieurs autres passages. C'est que le chandelier brillait depuis le soir jusqu'au matin, toute la nuit. C'est en effet dans une scène d'obscurité morale qui entoure la lumière divine qui luit dans les cœurs des rachetés et dans sa maison. C'est là que le chandelier brille, pendant la nuit. Cette nuit pendant laquelle le feu de l'Holocauste, selon Lévitique 6, ne devait pas s'éteindre. mais cette même nuit morale qui est celle de ce monde qui nous environne, c'est pendant cette nuit-là de ce monde que brille dans tout son éclat la lumière de son esprit qu'il nous a donné pour être toujours avec nous jusqu'au moment où l'étoile du matin va donner le signe de la fin de cette nuit qui aura pris fin. Elle s'est levée déjà dans mon cœur, bientôt elle va apparaître pour inaugurer en quelque sorte ce jour sans fin, cette éternité bienheureuse. Mais pendant la nuit, nous avons les ressources du chandelier de la lumière de son esprit. Une dernière mention dans le chapitre 30 du livre de l'Exode, une manière selon laquelle le chandelier brillait. Il nous est dit dans ce chapitre 30e, nous lisons les quelques premiers versets, tu feras un autel pour faire fumer l'encens, tu le feras de bois de sittim, sa longueur sera d'une coudée, et sa largeur d'une coudée, il sera carré, sa hauteur sera de deux coudées, ses cornes seront tirées de lui, et tu le plaqueras d'or pur, le dessus et ses parois tout autour, et ses cornes, et tu lui feras un couronnement d'or tout autour. Un peu plus loin, au verset 6e, tu le mettras vis-à-vis du voile qui est devant l'arche du témoignage, vis-à-vis du propitiatoire qui est sur le témoignage, où je me rencontrerai avec toi. Et Aaron y fera fumer l'encens des drogues odoriférantes chaque matin. Il le fera fumer quand il arrangera les lampes. Nous savons bien que cette offrande sur l'autel d'or est une figure de l'adoration. Autel sur lequel n'étaient pas sacrifiées des victimes, mais sur lequel on brûlait un encens composé, ces quatre parfums à poids égal qui nous parlent des perfections infinies de Christ et de son œuvre. Pas de victime sur l'autel d'or, car nous ne sommes pas introduits dans le sanctuaire pour être agréés en vertu d'un sacrifice, mais nous sommes introduits là parce que nous avons été rachetés par un sacrifice devant lequel nous avons passé à l'autel des reins. Mais il faut passer l'autel des reins avant d'entrer devant l'autel d'or. Il faut être racheté par l'efficacité de l'œuvre de Christ pour être un adorateur dans le sanctuaire. Et pour y consumer cet encens composé dans lequel tout parle de lui. Mais là encore, il est fait mention des lampes qui sont allumées. On fera fumer cet encens et drogues odoriférantes quand on arrangera les lampes. La lumière du Saint-Esprit en accord avec la présentation de l'encens. Nous le comprenons bien, c'est le culte rendu en esprit et en vérité. La grâce divine nous introduit dans le sanctuaire, dans les lieux saints, car maintenant il n'y a plus de voile. Et tel était le propos du Seigneur, c'est d'appeler, d'amener à son Père des adorateurs. Car le Père cherche des adorateurs qu'il adore dans l'esprit et en vérité. Et le propos du Seigneur est de lui amener ce que son cœur recherche, un peuple de sacrificateurs et d'adorateurs. Tel était du reste le propos en Exode 19 à l'égard de son peuple terrestre. Mais lorsque ce service est rendu dans le sanctuaire, nous voyons qu'il l'est lorsqu'on arrange les lampes. L'offrande du parfum quand les lampes sont allumées. Le culte rendu en esprit et en vérité. Révélation que le Seigneur a pu donner à la Samaritaine en Jean 4. Mais combien nous pouvons rendre grâce de ce que maintenant l'heure est venue. Où étant compté au nombre de ses adorateurs, nous pouvons accomplir ce service dans les lieux saints. En esprit et en vérité, lorsque la lumière du chandelier est active, lorsque cet esprit produit ces sacrifices spirituels où le nom de Jésus comme un parfum répandu et consumé sur l'autel d'or. Dans le sanctuaire, quelle grâce de pouvoir le faire. Ainsi donc, au nombre de ces quelques versets, nous voyons la diversification des manières selon lesquelles le chandelier éclaire vis-à-vis de lui, rendant témoignage à lui-même, le Saint-Esprit nous entretenant de Christ. Vis-à-vis de la table, mettant en évidence dans l'atmosphère du sanctuaire, dans ce lieu d'adoration, de lumière et de nourriture, la réalité parfaite à la gloire de Dieu de l'unité de son peuple. Lumière de l'esprit nécessaire pour la formation des serviteurs, en nombre 8. Lumière de l'esprit nécessaire, accompagnée de la nourriture de sa parole, dans un monde caractérisé par la soudure. Lumière de l'esprit pendant la nuit de ce monde, jusqu'au lever de l'étoile matinale que nous attendons. Puissance de l'esprit indispensable pour rendre ce culte en esprit et en vérité. Nous pouvons dire que la nuit arrive à son terme, mais avec reconnaissance, la lumière a brillé dans nos cœurs. Il a travaillé dans sa grâce, par son esprit, pour nous amener à lui. Et nous sommes maintenant non plus des ténèbres, mais des enfants de lumière, qui nous accorde d'être ici-bas, pour sa gloire, des luminaires dans ce monde. En attendant le jour où nous serons introduit dans la maison du Père, là où le Seigneur a préparé la place, dans ce lieu duquel il nous est dit qu'il n'y a pas de nuit là. Combien cela est en contraste avec la scène de ce monde. Il n'y a pas de nuit là. Introduit dans cette scène de laquelle le Seigneur sera le centre, lorsque nous le contemplerons comme l'agneau qui a été immolé occupant la place centrale du trône, dans ce lieu de la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu d'Apocalypse 21, duquel il nous est dit que la gloire divine, la gloire de l'agneau l'illumine et que l'agneau en est la lampe.